Nous te remercions, Seigneur, pour venir à cette croix bénie. Te remercions pour l'œuvre que tu accomplis encore au milieu de ton peuple et de tes enfants. Merci, Seigneur, parce que tu veux encore te manifester et te glorifier. Nous confions en ton nom, voulons encore saisir et recevoir le message de ta parole de vie. Nous te glorifions. Amen, Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, eh bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu, frères et sœurs, dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6. On lira là à partir du verset 8. 2 Rois, chapitre 6, verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël, et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit « Personne, ô roi mon seigneur. Mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit « Allez, et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On va lui dire « Voici, il est à Dothan. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Pardon. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous ? » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel, « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » L'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je mon père ?» « Tu ne frapperas point, » répondit Élisée. « Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ? Donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. » Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent, puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Amen. Voilà un passage et une prédication auquel on pourrait donner pour titre « Élisée, le champion de la vue ». Élisée, le champion de la vue. Ce qu'on voit, ce qu'on discerne, c'est d'une grande importance pour toute une série de raisons importantes. Et ceux qui réussissent à voir à ce qui échappe à d'autres ont sur eux un avantage considérable et majeur. Je lisais ce petit article, un extrait d'un article, il était dit « Maigret, Colombo, Derrick ». En l'œil pour découvrir l'indice qui dévoile le coupable. Tenace, méticuleux, attentif aux détails, doué de psychologie, ils voient ce qui échappe aux autres. Au niveau des enquêtes policières, ils n'ont pas leur pareil. Dans d'autres domaines, d'autres personnes se distinguent par un sens de l'observation hors du commun. Professionnels ou amateurs, ils repèrent les fautes d'orthographe, l'erreur de raisonnement, la fausse note dans un concert, la copie de l'original dans une galerie de tableaux, la plus légère flexion d'un genou chez les meilleurs gymnastes. Experts dans les domaines les plus divers, ils percent les mystères et les énigmes, discernent le vrai du faux, repèrent l'aiguille dans la meule de foin. Tous ces hommes sont experts. Ils ont un don de discernement manifeste, mais leurs compétences restent limitées à un domaine particulier. Voilà. Alors maintenant, ce que nous pouvons voir aussi à travers de notre passage, c'est que, à cause de l'incrédulité, Beaucoup d'hommes ont perdu la vue véritable et ils ont perdu le discernement. Voici un homme moderne qui s'est égaré dans un désert. Pendant des jours et des nuits, il a tourné en rond en se posant continuellement la question « Combien de temps faut-il pour mourir de faim et de soif ?» Et l'impitoyable chaleur du soleil n'a pas tardé à le dessécher. La fièvre l'a gagné. Dormant d'épuisement pendant quelques heures, il rêve évidemment d'eau, d'orange, de date. Il se réveille alors pour être saisi encore d'un tourment plus grave et il reprend sa marche en titubant. Mais voilà qu'il aperçoit une oasis à quelque distance. « Ah, dit-il, c'est un mirage qui me taquine, qui me pousse au désespoir. En réalité, il n'y a rien là. » Il s'approche de l'oasis, mais au miracle, elle ne disparaît pas. Au contraire, elle prend des contours de plus en plus nets, avec ses palmiers, avec son herbe et des rochers, entre lesquels une source donne son eau. Alors, il s'agit peut-être d'un produit de mon imagination d'homme affamé, et mon cerveau, à moitié fou, me fait miroiter cela, se dit cet homme. Il est normal que de telles illusions se forment dans ma situation. J'entends même l'eau faire des glouglous, une autre hallucination, comme la nature peut être cruelle. Et cette pensée l'achève, et il meurt en prononçant un juron contre l'absurdité de la vie. Une heure plus tard, deux bédouins le trouvent. Peux-tu comprendre une chose pareille ? Demande l'un à son compagnon. Les dates sont là à sa portée. Il lui aurait suffi d'étendre la main. Il est là, couché, tout près d'une source, mort de faim et de soif, au plein milieu de la plus belle des oasis. Comment est-ce possible ? Et l'autre bédouin de répondre, c'était un homme moderne, il n'y croyait pas. C'était un homme moderne, il n'y croyait pas. Vous savez, Dieu est très proche des individus de notre temps. Mais l'être moderne, postmoderne, ça dépend comment on parle, ne le remarque pas. Hein. Tout comme cet homme dans le désert, il ne croit pas qu'il se trouve à proximité immédiate d'une oasis. Hein. Dieu est là, qui lui tend la main. Dans le livre des Actes, nous lisons au chapitre 17, au verset 27, « Il a voulu qu'il cherche le Seigneur et qu'il s'efforce de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Oh, » Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Vous savez, l'incrédulité, c'est cette immense complication qui nous rend aveugles à toute une série de réalités spirituelles d'une importance faramineuse et nous cause ainsi des dommages irrémédiables. Hein, mes amis, mes frères et sœurs, la réalité de cet aveuglement, elle se trouve de manière généralisée dans le monde, mais hélas aussi dans les églises. Hélas aussi, pour un certain nombre, même pour beaucoup dans les églises, parce que quelle parole extraordinaire quand on veut bien la considérer. Bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Hein, c'est-à-dire que, est-ce que nous avons réalisé, est-ce que nous saisissons ce matin ce que ça veut dire ? Que ce grand Dieu, ce Dieu puissant, ce Dieu merveilleux, ce Dieu de miracles, de prodiges, est près de nous. Il est tout près. Alléluia ! Hein, il est à portée de voix, il est à portée de toucher même. C'est-à-dire qu'il est près de chacun de nous. Donc, il n'y a pas d'exception. Hein, il est près de toi, mon frère, il est près de toi, ma sœur, de toi qui n'es pas encore mon frère et ma sœur dans la foi parce que tu es encore dans l'incrédulité. Il est près de toi, il n'est pas loin. Alléluia. Et ça veut dire que si tu le pries, même à voix basse, il veut t'entendre et veut t'exaucer, à condition bien sûr que tu le pries de tout ton cœur et de toute ton âme. Et si tu cries à lui, à plus forte raison, de tout ton être, eh bien il t'entendra. Car quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Béni soit le Seigneur. Mais oui, toutes. Mais la question c'est quoi ? Là, cette question c'est est-ce que tu le cherches vraiment ? Même en t'attendant. Même en tâtonnant, puisque c'est marqué là, hein, donc il parlait de tâtonner. Est-ce que tu as soif du Seigneur ? Est-ce que tu réalises vraiment ton besoin que tes yeux soient ouverts ? Est-ce que tu désires du plus profond de ton être t'approcher du Seigneur ? Est-ce que tu as cette volonté vraiment de le rechercher, tâtonner ? Il a voulu que chacun le cherche en tâtonnant, a-t-il marqué. Tâtonner, ça veut dire qu'on cherche avec persévérance. Ça veut dire qu'on ne se laisse pas décourager si on ne trouve pas tout de suite. Ça veut dire qu'on ne va pas se vexer. Ça veut dire qu'on ne va pas être susceptible ni être mécontent si le Seigneur ne se révèle pas tout de suite. Vous savez, après tout, le Seigneur a le droit de s'assurer si nos prières sont réelles. si nos prières sont sincères, si on n'est pas en train de le tromper, ou plutôt de se tromper soi-même, voyez-vous ? Parce que des fois, on peut prononcer des paroles et on ne pense même pas vraiment à ce qu'on dit. On ne croit pas, même pas vraiment les paroles qu'on prononce. On les prononce machinalement parce qu'on a entendu d'autres les dire, ou peut-être dans une autre certaine occasion, ben on a pu les prononcer de la bonne façon, mais après, je sais pas, on s'est endormi peut-être, et puis on répète les mêmes paroles. Mais est-ce qu'on y croit encore, hein ? Vous savez, quand vous avez perdu une clé importante, ou votre smartphone, quand vous avez perdu votre smartphone, vous le cherchez, non ? Vous tâtonnez, là, vous n'hésitez pas. Il n'y a pas de problème. Hein ? Donc là, on va le chercher. Et pourquoi ? Parce qu'on y tient. Et si on cherche, eh bien, l'Écriture nous dit qu'on trouvera. Le Seigneur nous dit que si nous demandons, il nous donnera. Si nous frappons, il nous ouvrira. Mais il faut le faire avec sérieux. Il faut vraiment se donner à la chose. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur est-il marqué, hein, voilà. Et quand vous le trouvez, alors quelle merveille, alors quelle joie, alors quel ravissement, quel affermissement, quelle précieuse assurance. Comme vos yeux vont s'ouvrir, déjà ils vont s'ouvrir sur la parole de Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta loi. Alléluia. Et puis ils vont s'ouvrir sur quoi ? Eh bien, sur la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Tu la verras. Tu la verras dans tous les domaines. Tu la verras dans toute ta vie. Tu la verras dans toutes les situations dans lesquelles tu peux te trouver. Dans d'autres vies autour de toi, tu la verras. Dans l'œuvre de Dieu, parole de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Oui, ça va être aussi notre expérience merveilleuse. Amen. Alléluia. Alléluia. Et puis je reviens à notre texte de départ, hein, parce que donc une autre complication supplémentaire qu'il peut y avoir, c'est que ce qu'on nous montre, les images qu'on peut voir, elles peuvent être totalement fausses et ne correspondre à aucune réalité sans qu'il soit possible de discerner la supercherie. Vous savez, quand les Syriens étaient là en train de se promener derrière Élysée, enfin se promener, ils ont quand même fait 14 kilomètres là comme ça, hein, qu'on dit. Ils n'ont rien vu, ils n'ont rien discerné. Mais le monde fait pareil, hein. Le monde fait pareil. Méfiez-vous de toutes les images qu'on vous propose. Hein, aujourd'hui, ben, c'est quelque chose de tout à fait facile à faire. Ça a été réalisé, ça a été accompli de nombreuses fois. C'est-à-dire que, voilà, dans une émission en direct, dans le cadre d'un journal télévisé, paf, on vous intègre dans l'image. On vous intègre directement dans l'image. C'est arrivé encore il n'y a pas longtemps. Il y a eu une discussion aux États-Unis entre CBS qui avait retouché les images. Donc, et ils avaient mis, donc, ils avaient mis une réclame sur une, je ne sais plus quelle émission, c'est NBC, moi, je crois. Oui. Il y avait un panneau de NBC là, dans l'image, et eux, ils avaient mis donc, leur propre logo à la place de ce panneau. Donc c'était CBS qui était, alors il y a quelqu'un qui s'en est aperçu, ça a fait un scandale, et puis le commentateur principal de CBS a reconnu que c'était une erreur, hein. Mais ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que ça se fait très facilement. Aujourd'hui, vous avez des chaînes sportives qui sont spécialisées dans, par exemple, dans une course de voiture. Eh bien, lorsque vous avez des panneaux publicitaires, vous savez, qui sont indiqués là, le long du parcours, vous avez certains pays comme la France où la publicité pour le tabac est interdite, ben, qu'est-ce qu'ils vous font? Eh bien, en pleine émission, ils vous changent le panneau, vous ne voyez rien. Hein, ils vous changent ce qui est marqué sur le panneau, vous ne voyez aucune différence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas faire confiance à ce qu'on voit, à ce qu'on nous montre. Et alors, je crois que ça veut dire qu'il faut qu'on soit méfiant. Il faut qu'on soit méfiant, surtout, bon, quand c'est une course de voiture encore, on n'est pas obligé d'être trop méfiant. Mais quand derrière, on essaye de vous faire passer certaines idéologies, qu'on essaye de vous faire passer, je ne sais pas moi, certains, les bienfaits d'une soi-disant pensée dominante dans le monde, etc., il faut qu'on soit méfiant. Et ça nous montre aussi qu'on doit être conscient de notre propre vulnérabilité. Ça doit nous rendre conscients de notre fragilité, que nous pouvons nous tromper, que nous pouvons être trompés ou nous tromper en toute bonne foi. Nous pouvons penser être dans la vérité et nous n'y sommes pas. Vous savez, dans mon existence, eh bien, j'ai eu à divers moments l'occasion de réaliser comment je pouvais me tromper moi-même avec beaucoup de facilité. Et heureusement que j'étais marié. J'avais une femme qui me ramenait les pieds sur la terre des fois. Bon, l'inverse est arrivé aussi. Mais c'est tout, hein, on est là, c'est pour ça qu'on est ensemble. Donc, il faut veiller. Il faut veiller pour que, voilà, pour que ce soit le cas. J'ai été aussi frappé de la facilité avec laquelle bien des chrétiens peuvent se laisser rouler, peuvent se laisser tromper par des discours, par des messages, par des nouveautés, par des fonctionnements en apparence attirants, sans discerner ce qu'il y a derrière. Avec les années, j'ai eu l'occasion aussi de voir ça. Et quelles sont les raisons ? Quelles sont les raisons qu'on peut voir pour en arriver à ces malheureux résultats ? Eh bien, souvent, eh bien, il s'agit de chrétiens qui vont chercher plutôt un chemin de facilité, un chemin de même moindre exigence que le message de la croix, de la consécration et de la sanctification. Voilà. On préfère rester dans une vie chrétienne qui est superficielle. Ou aussi parce qu'on est négligent. On n'a juste pas envie de réfléchir. On n'a juste pas envie de creuser et de chercher. Alors que je regrette, mais la recherche de la vérité, c'est quelque chose d'exigeant. La recherche de la sagesse de Dieu, lisez tous les 12 premiers chapitres des Proverbes. Si vous n'avez pas encore, si vous n'êtes pas convaincu, eh bien refaites-le, relisez, vous verrez que c'est quelque chose d'exigeant. Et c'est vrai, c'est exigeant dans ce qu'elle demande, cette sagesse, pour la découvrir, la connaître et pour la suivre. Et souvent, il y a un problème d'humilité aussi. Hein. On croit qu'on sait, sans savoir vraiment. On ne demande pas avis, on ne demande pas conseil. L'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Hein. Et avec tout cela, ben vous avez bien souvent un manque de réel attachement à la parole de Dieu. C'est-à-dire, on peut connaître des versets bibliques, on peut intellectuellement savoir un certain nombre de choses au niveau de la doctrine, théoriquement, on peut connaître bien des choses de la Bible, mais pas être vraiment attaché à la parole. On peut étudier la Bible d'une manière détachée, vous savez, hein. C'est parfaitement faisable, hein. On ne l'aime pas vraiment. Veille, est-il marqué ? L'apôtre Paul dit à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Pas sur ton enseignement d'abord, sur toi-même déjà. Bon, c'est pas séparé l'un de l'autre, hein. Mais ça nous parle, ça doit nous parler. Vous savez, je vais vous parler d'une expérience difficile qu'on a vécue à un moment dans l'église de Saint-Dizier, une expérience de division. C'est toujours quelque chose de douloureux qu'une expérience de division dans une église. Hein. Et à l'origine de cette division, ben, il y avait un frère de belle prestance, qui parlait bien, qui avait une certaine réussite au niveau familial, au niveau de son entreprise, dans son affaire, qui avait aussi une connaissance, hein, une connaissance de la Bible. Et puis il a eu cette pensée qu'il avait la capacité pour certainement diriger l'église. Alors il avait des capacités, hein. Vous savez, ce n'est pas qu'une question de capacité. C'est évident que la question des sacrifices et de l'humilité à ce niveau-là était quelque chose qui manquait. Et puis, voilà, il y a une division qui s'est suivie de ça. Une division dans l'Église, donc avec tout son cortège de séparation, avec son cortège de souffrance qui en résulte. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très éprouvant. Et puis les uns et les autres ont pris position. Certains ont été séduits par son discours, ils l'ont suivi, et d'autres non. Et là, je me souviens tout spécialement d'un jeune frère dans la foi, un garçon qui était tout simple, qui n'avait pas beaucoup qui n'avait pas d'études pratiquement, qui n'avait pas beaucoup d'expérience avec le Seigneur, qui n'avait pas beaucoup de connaissances de la parole de Dieu, mais il ne s'est pas laissé prendre. Il ne s'est pas laissé circonvenir, vous savez pourquoi ? Parce qu'il aimait la parole de Dieu. Parce qu'il la lisait avec amour et puis qu'il avait à cœur d'y obéir. Et à cause de ça, il a été gardé et il a eu ce discernement, il a eu cette clairvoyance qui pouvait être frappant, spécialement chez un jeune converti, de voir ce qu'il y avait derrière le discours. Voyez-vous ce qu'il y avait derrière. Et j'ai eu l'occasion de voir cela, bon, même encore dans d'autres situations. Mais si je peux en parler spécialement dans ce cas-là, c'est d'une part parce qu'il y a le recul du temps, hein, et ces choses sont passées maintenant il y a plus de 30 ans. Et d'autre part, parce que ça s'est quand même relativement bien terminé, je veux dire dans le sens qu'après bien des péripéties, après bien des mésaventures, le frère qui a été à l'origine de cette division s'est repenti, il a demandé pardon, hein, des années plus tard. Bon, il n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais quant à l'autre frère, ben, il est resté fidèle à l'Église depuis ce temps-là, jusqu'à présent. Alors évidemment, le pardon peut être accordé, il doit être accordé quand il y a une telle repentance, mais vous savez les conséquences, hein ? Les conséquences dans les vies des uns ou des autres, à de ceux qui ont participé à de telles divisions ou qui en ont été victimes, il y a certaines conséquences qui ne peuvent pas être rattrapées. Il faut quand même se dire ça. Et ce frère croyait voir, alors qu'il était aveugle. Il croyait avoir compris la situation, mais il était fondamentalement dans l'erreur et dans l'illusion. Il se croyait capable de bien juger, mais son évaluation était fausse. Au-delà des belles paroles, il était dans l'erreur. Et ça ne s'est pas révélé tout de suite. Et du coup, vous en avez d'autres qui l'ont suivi à ce moment-là, parce que les aveugles ont que suivre un aveugle, voilà, comme ça. Et il a fallu quelques années pour qu'ils perdent leurs illusions, pour qu'ils s'aperçoivent des gens qui ont quitté l'église, ils n'avaient pas trouvé le paradis ailleurs pour autant, et puis qu'ils avaient probablement agi trop vite et sans réfléchir. Et qu'au bout du compte, ils avaient probablement beaucoup perdu dans l'affaire. Ainsi, ils étaient devenus assez humbles pour l'admettre lucidement. Ce n'est pas forcément le cas chez tous. Vous savez, il n'y a pas de pire aveugle que celui qui ne peut pas voir. Mais en tout cas, ce qui aide beaucoup dans ce genre de situation, quand elle se présente, ce qui aide beaucoup à s'en sortir, à faire le bon choix, à échapper au mauvais choix, c'est la simplicité, l'humilité, c'est le profond attachement à la parole de Dieu, c'est un esprit de service pour les frères et sœurs, c'est un esprit de prière et de communion avec Dieu, c'est un esprit d'amour des âmes, de témoignage aussi, et c'est la recherche de l'intérêt des autres avant le sien propre. C'est la recherche de conseils, la recherche d'avis spirituels. Et c'est vrai, c'est la parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier pour nous permettre de voir dans ces ténèbres les plus épaisses que nous puissions toujours bien vouloir suivre Jésus. C'est lui qui est la lumière, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Vienne bientôt le jour béni où nous pourrons le voir face à face, où nous connaîtrons comme nous avons été connus. Béni soit notre Sauveur. Amen. Hélas, trop souvent, vous avez bien des hommes qui sont convaincus d'avoir tout compris, tout vu, que rien ne leur a échappé, qu'ils ont beaucoup de discernement, qu'ils ont en main tous les éléments pour un bon jugement, qu'ils sont capables de bien juger. Et notre texte, auquel je reviens, on va y arriver quand même, mais il est là pour nous montrer combien c'est quelque chose de facile et d'illusoire. Bien et mal jugé. C'est impressionnant de voir aussi avec quelle facilité les gens sont capables d'émettre des critiques superficielles, des jugements rapides, péremptoires et trop souvent définitifs sur les apparences des choses ou des gens, sans savoir ce qu'il faudrait savoir, sans prendre le temps de réfléchir, sans souci de vraie objectivité, avec leur propre motivation pas toujours claire, avec des préjugés, suivant ce qui les arrange pour l'instant, dans l'immédiat, et bien sûr, sans chercher l'avis de Dieu, sans chercher la pensée de Dieu, sans chercher le conseil et la volonté de Dieu. Et il en résulte souvent bien des erreurs, bien des fautes, des manifestations de manque d'amour, voire d'hostilité, des incompréhensions, des froideurs, des animosités, des disputes. Et la parole de Dieu dénonce ceci comme des attitudes et des comportements charnels. Et elle nous donne bien des exemples d'aveuglement spirituel, d'insensibilité à la voix de Dieu, d'erreur et de fourvoiement en dehors du bon chemin qui en résulte. Or, que dit l'Écriture ? L'Écriture dit « L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. » L'homme spirituel juge de tout, il n'est lui-même jugé par personne. C'est dans 1 Corinthiens 2, verset 15. Comment cela peut-il se faire ? Eh bien, cela se fait parce qu'il a, comme il est marqué un peu plus loin, la pensée de Christ, le verset suivant. Il a la pensée de Christ, il demeure en communion avec Christ. Ça veut dire que quand il va juger, ça va être avec bonté, avec douceur, avec patience, avec compassion et avec miséricorde. Avoir la pensée de Christ, ça veut dire que sa pensée est formée par la parole de Dieu qu'il aime, qu'il étudie et qu'il médite. « Combien j'aime ta loi !» Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Et puisqu'il en est ainsi, il va être rendu de plus en plus capable de juger selon Dieu. Ça veut dire aussi qu'il ne va pas juger hâtivement. Il va prendre le temps d'examiner la situation sous tous ses angles, de prendre des avis si nécessaire, de prier le Seigneur et de veiller surtout sur son propre cœur. Et le Seigneur donc va l'éclairer. Ça veut dire qu'il aura aussi l'humilité et le bon sens de reconnaître les situations ou les personnes où il n'a pas à juger. hein, parce que ça aussi, ça existe. Soit parce que ça ne nous concerne pas, soit parce que ça nous dépasse, soit parce qu'on n'a pas assez d'éléments pour le faire, soit parce que c'est prématuré. Mais s'il faut prendre position pour la vérité, que ça implique un jugement pour Christ selon Dieu, alors c'est vrai, on ne craindra pas de juger, on ne craindra pas de prendre position, et on le fera paisiblement, on le fera fermement, là où d'ailleurs, bien souvent, celui qui jugeait charnellement, eh bien, dont on parlait tout à l'heure, lui, il aura tendance à s'esquiver à ce moment-là. Hein. Mais puisqu'on a cette vision du Seigneur, ce discernement qui vient d'en haut, et quand il est marqué, à la fin de notre verset, l'homme spirituel juge de tout, mais il n'est lui-même jugé par personne, ça ne veut pas dire que le monde ne va pas émettre de critiques ou de calomnies à son encontre, mais plutôt qu'il n'est captif du jugement de personne, vous comprenez ? Hein, donc, il n'a pas à se laisser accuser, il n'a pas à se laisser culpabiliser, mais il peut demeurer dans la paix, de l'assurance du Seigneur, tant qu'il est et tant qu'il demeure dans cette disposition. Amen. Voilà, après cette très longue introduction, nous voulons considérer notre texte suivant trois axes. Nous parlerons d'abord d'Élisée, le champion toute catégorie de la vue. Et puis ensuite, nous parlerons du discernement des hommes, discernement humain, ses réalités, parce qu'il y a un discernement humain qui existe réellement, mais aussi ses limites. Et puis nous conclurons en parlant de la façon dont Élisée nous parle de Christ, avec les conclusions à en tirer. Élisée, donc, c'est le champion toute catégorie de la vue. Déjà, c'est parce que, en premier, voici cet homme, il voit d'une manière surnaturelle, d'une manière extraordinaire. Il est capable de voir les choses les mieux cachées sur le plan humain. Tous les secrets militaires de l'ennemi, même les plus confidentiels, lui sont connus. Il entend directement toutes les paroles du roi de Syrie, même celles prononcées dans la chambre à coucher royale, qui est l'endroit certainement le mieux protégé du camp ennemi. Hein ? Et sa connaissance est totale. Sa connaissance est instantanée et elle paraît illimitée dans le temps, puisqu'il est marqué au verset 10, « Cela arriva non pas une fois ni deux fois. » Déjà, c'est comme ça. Ensuite, non seulement cela, mais Élisée est un homme qui est capable de faire voir à un autre. Il fait voir à son serviteur les réalités fondamentales, cachées au commun des hommes, ce dont ils ne se rendent pas compte, qu'ils ne réalisent pas et qui pourtant est plus réel que tout ce qu'on peut voir. Hein ? Il sait que l'Éternel veille sur lui, il n'a aucune crainte parce qu'il n'a aucune totale confiance dans la promesse et de la parole, dans les promesses de Dieu et dans la parole de Dieu. Il encourage son serviteur par sa foi et il prononce pour ça des paroles de foi. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Alléluia. C'est au verset 16. Il l'encourage aussi par une prière de foi. Au verset 17, juste après, Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux afin qu'il voie. » Et c'est alors que le serviteur, d'un seul coup, peut voir distinctement cette armée étincelante. Quel merveilleux miracle de foi! Quelle illustration originale, puissante de la promesse du Seigneur qui dit « Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. » Vous savez, le problème de Dieu, ce n'est pas de manifester sa gloire. Ce n'est pas ça son problème. Le Seigneur a déjà manifesté sa gloire admirablement au milieu de nous dans diverses situations. Hein. Bien des fois, on a pu voir des miracles merveilleux. Hein. On a pu obtenir des exaucements prodigieux à la prière. On a pu voir des transformations de vie, on a pu voir des nouvelles naissances magnifiques, mais la question c'est, est-ce qu'on l'a vraiment vu ? Est-ce qu'on l'a réellement vu ? Est-ce qu'on a été émerveillé ? Est-ce qu'on est encore aujourd'hui admiratif et reconnaissant devant le Seigneur jusqu'à aujourd'hui ? Est-ce que ça fortifie encore notre foi ? Hein, c'est ça le grand point. Mais vous savez, rappelons-nous quand même une chose, si ce serviteur a pu voir les chars de feu et les chevaux de feu à la prière d'Élisée, c'est bien sûr parce que le prophète a prié pour lui, mais c'est aussi parce que son cœur, à lui, était dans de bonnes dispositions. Il faut quand même aussi voir ça. C'est lui qui était attentif à ce que le prophète allait lui dire. Il était conscient du besoin, de l'urgence de la situation. Et en même temps, il s'attendait au Seigneur. Il s'attendait au serviteur de Dieu. Et c'est lui qui était prêt à faire tout ce que l'homme de Dieu lui dirait. Il était, dirais-je, demandeur d'ordre. Il a dit, « Ah, mon Seigneur, que ferons-nous ? Je suis prêt à le faire. Je suis disponible. Dis-moi ce qu'il faut faire. N'importe quoi. Je suis prêt à le faire. Voyez-vous ? Et c'est comme ça que lorsque le serviteur de Dieu a prié, le Seigneur a pu se révéler. C'est de cette manière. Il faut quand même qu'on saisisse cela. Et si nous voulons voir la gloire de Dieu, eh bien quand même, ça dépend fondamentalement de notre attitude. Désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur de la parole de Dieu, entre guillemets, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Alléluia. Il est marqué encore, voilà, c'est le grand point. Si tu crois, oui, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'on aspire vraiment aux choses d'en haut ? Hein ? Est-ce qu'on cherche réellement, prioritairement, le royaume de Dieu et sa justice ? Ces jours passés là, est-ce qu'on a cherché en premier le royaume de Dieu et sa justice ? Vous savez, c'est le grand point. Hein ? Est-ce qu'on veut véritablement croire ? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais est-ce que tu veux véritablement croire ? C'est le grand point. Vous savez, aux noces de Cana, Jésus a changé l'eau en vin. Tous ceux qui étaient là en ont bénéficié. Il est marqué, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Les disciples ont cru, ils ont vu la gloire de Jésus. Pourquoi ? Parce que leur cœur était bien disposé envers lui. Parce qu'ils étaient disciples. Mais il y a plein de monde qui était là ce jour-là. Il y a plein de monde qui a profité de ce vin, qui a appris ce qui s'était passé. Mais la plupart d'entre eux, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Leur cœur était orienté à la fête, bien manger, bien boire, bien profiter, bien s'amuser. C'était ça. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la gloire de Dieu a été manifestée, mais ils ne l'ont pas saisie. Ils ne l'ont pas vue, ils ne l'ont pas réalisée. Ils sont passés à côté de la plus grande occasion de leur vie, de la plus grande possibilité de voir la gloire de Dieu. Ils sont passés à côté parce que leur cœur était mal disposé. Et ceux dont le cœur était bien disposé, bien ceux-là, ils ont vu la gloire de Jésus et ils n'ont pas cessé de la voir, ils l'ont vu bien encore après. Alléluia. C'est une question de disposition de cœur, mes frères et sœurs. Hein, et ça me ferait mal au cœur que dans cette assemblée, là encore, il y en ait qui aient vu les manifestations de la gloire de Dieu, mais qui ne l'aient pas saisi, qui ne l'aient pas réalisé parce que leur cœur n'était pas bien disposé. Et il faut qu'on considère la disposition de notre cœur. Si vous venez à Jésus de tout votre cœur, vous ne manquerez pas de voir sa gloire. Béni soit son nom. Amen. Alléluia. Et puis une chose encore importante concernant Élisée. Élisée est un homme capable d'empêcher de voir autrui. Ah, c'est intéressant ça aussi. Nous voyons qu'il a été capable de troubler la vue d'une armée entière. Ce qui est manifeste pour les hommes, habituellement, devient opaque pour ses soldats, et ça donc suite à sa prière, comme on a vu au verset 18. Et voilà que ces soldats deviennent en quelque sorte les jouets d'Élisée. Il va les conduire à la capitale israélite, Samarie, qui est située à 14 km de là. Et vous remarquez qu'ils ne sont pas totalement aveugles. Hein ? C'est-à-dire qu'ils peuvent marcher, ils peuvent suivre Élisée, ils voient le prophète, mais ils sont incapables de l'identifier. Avec naïveté, il croit aux paroles du premier venu, hein, puisque c'est lui qui le suit de cette manière-là. Je dirais que quelque part, leur esprit même est anesthésié. Et en arrivant à Samarie, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont dans la capitale. Ils ne réalisent pas qu'il y a des troupes de soldats qui sont en train de les encercler, des troupes de soldats israéliens ennemis. Et ce sera seulement suite à une nouvelle prière d'Élisée que la vue et le discernement leur seront rendus. Et ainsi, de la sortie de Dothan à l'entrée de Samarie, les Syriens sont sans le savoir, sans le réaliser même, dans le trouble, la confusion le plus total, sans être aveugles pour autant, ils n'ont rien réalisé. Et ça nous amène à notre deuxième grand point, c'est-à-dire le discernement des hommes, ses réalités et ses limites. Ces hommes ont réellement du discernement, de la vision et de la connaissance. Au départ, eh bien, dans cette affaire, moi je suis émerveillé par l'efficacité des services de renseignement. Ah, quand je lis le début, je me dis, ben, quand le roi d'Israël reçoit les informations nécessaires de la part du prophète pour les vérifier, ben, il prend la peine donc de les faire vérifier, il constate leur exactitude. Ça veut dire déjà que les services de reconnaissance font bien leur travail. Quand les Syriens découvrent que leur stratégie n'est pas efficace, ben, le roi est rapidement informé de l'origine des fuites. Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Rien n'est dit sur la façon dont les Syriens savent ça, mais ils le savent. Le service de renseignement est bien organisé. Hein ? Et puis les Syriens peuvent ensuite trouver Élisée. Le roi dit, allez et voyez où il est, je le ferai prendre, on va lui dire, voici l'état d'Otan. Pas de problème, on sait où il est. Hein, voilà, donc ça marche. Ça veut dire que malgré les difficultés de cette recherche, eh bien les Syriens savent, et c'est ce qui importe. Et c'est vrai que vous avez des hommes qui sont réellement extrêmement capables de discerner, voir des choses difficiles. Vous savez, moi j'ai eu l'occasion de lire des fois des articles, je suis impressionné par la sagesse, par l'intelligence des gars, la façon dont ils sont capables de relier des événements, des situations, des toutes sortes de choses, et ils sont capables. Hein. Vous avez des services de renseignement, ils sont capables de vous trouver des choses secrètes. Hein. Et vous avez des hommes, ils sont capables d'émettre un jugement juste sur une situation avec beaucoup de sagacité. Ils sont capables, dans certains domaines, de faire des prévisions très exactes. Ils sont capables de trouver même quand c'est difficile. Mais le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est quand ça les amène à une assurance présomptueuse. C'est ça le problème. Hein. C'est qu'ils croient qu'ils ne se tromperont pas, puisqu'ils ne se sont pas trompés plusieurs fois, ça veut dire qu'ils ne se tromperont pas dans la suite. Hein. Ils croient qu'ils ont tout vu. Pourquoi ? Parce qu'il y a une ou l'autre situation où ils ont eu un regard pénétrant, clairvoyant, ça y est, eh ben, ils ont tout vu. Et avec cette attitude, eh ben, un jour ou l'autre, vous allez vous tromper. Et plus vous serez plongé dans cette attitude, et plus vous risquez de vous tromper gravement. Parce que, en même temps, il est évident que leur discernement a aussi des limites. Le roi d'Israël n'est pas informé de toutes les paroles que le roi de Syrie prononce dans sa chambre à coucher, mais seulement celles qui sont nécessaires pour sa sécurité. Élisée ne dévoile pas où sont stationnées l'ensemble des troupes syriennes, parce que ça aurait permis au roi d'Israël de mener l'offensive. Élisée, c'est un prophète de la vie. Élisée, ce n'est pas un prophète de la mort. Il protège les hommes, mais il n'encourage pas l'agression. Hein, donc, et de plus, nous voyons que le roi d'Israël va être limité dans sa connaissance par son incrédulité. Il ne se satisfait pas des paroles du prophète, ou juste il se satisfait de ses paroles dans la mesure où il peut les vérifier. Et une telle personne, elle va toujours être limitée. Toujours être limité dans sa connaissance par beaucoup des informations qui sont révélées par Dieu ne peuvent être vérifiées immédiatement parce qu'il faut marcher par la foi. Hein. Il faut faire confiance aux promesses de l'Écriture. Il faut s'engager pour le Seigneur, il faut obéir à sa parole. Et c'est ça qui va être le meilleur moyen de vérifier et de voir se réaliser les choses, autre chose. Dans l'autre camp, le roi de Syrie, lui aussi, est limité dans sa connaissance. Déjà, vous le voyez, il se trompe parce qu'il attribue les fuites à un traître. Il pense qu'il y a un traître, en verset 11. Et puis ensuite, vous ne trouvez pas quand même qu'il fait preuve d'une grande naïveté quand il prétend capturer Élisée par surprise. Hein. Enfin, quand même, essayer de capturer un homme qui a déjoué ses plans et qui lit en lui comme un livre ouvert, et il pense qu'il va réussir à le prendre par surprise. Ben, franchement, hein, je dirais que c'est une réaction qui est puérile, qui est bêtement obstinée, hein, on pourrait dire cela de sa part. Et même la réaction du roi d'Israël, quand vous regardez au verset 21, eh bien ça montre un manque certain de bon sens, et même de sens politique. Heureusement que le prophète est là pour le ramener à la raison. Mais non, tu ne vas pas les tuer. Au contraire, faire donner à manger, à boire. Et c'est heureusement que c'est lui qui réagit comme ça. Comme ça, il a brisé le cycle de la vengeance et de la vendetta et de la revengeance, etc., hein, et donc, et c'est ceci pour nous faire réaliser l'ensemble du tableau. Ça veut dire pardon, que l'homme est très capable dans certains domaines, mais en même temps très insuffisant dans d'autres. Il est très, très prévoyant, il agit très sagement pour certaines choses, mais il est entièrement insensé et illogique dans d'autres. Hein. Il a de grandes capacités de discernement pour certaines choses, mais il est totalement naïf et dépourvu de sens dans d'autres. Et ça, c'est vrai pour tout homme. Et ça nous montre bien l'immense besoin du Seigneur dans lequel se trouve tout homme. Et ça nous amène maintenant à notre troisième grand point. Notre troisième grand point, c'est qu'Élisée est pour nous une merveilleuse image de Jésus-Christ dans notre texte. Élisée annonce d'avance le ministère de Christ, et ceci de plusieurs manières. Déjà, au siège de Dothan, nous voyons Élisée qui se joue de cette armée hostile qui l'entoure, et ça nous rappelle comment Jésus est passé au travers de foules hostiles aussi. Hein, je ne vais pas lire les passages, mais dans Luc 4, 28 à 30, ou dans Jean 7, verset 30, et chapitre 8 aussi, verset 20 de l'évangile de Jean, on le voit. Ensuite, Élisée parle de la protection de l'armée de l'Éternel. donc équipés de chevaux, de chars de feu. Et rappelez-vous comment Jésus parle de ces 12 légions d'anges qui pourraient intervenir au moindre signe de sa propre part. Hein, tant que ça aussi, c'est en Matthieu chapitre 26 et au verset 53. Une troisième chose aussi, c'est que Élisée va ouvrir les yeux de son serviteur pour qu'il voie l'aspect caché mais glorieux du Seigneur. Et rappelez-vous de Jésus qui emmène donc ses trois disciples sur la montagne de la Transfiguration pour qu'ils voient la face cachée de sa gloire, qu'ils puissent la discerner. C'est Matthieu 17, verset 1 au verset 13. Et puis aussi, voyez comment le prophète va sauver les hommes de la mort, qu'ils soient israélites ou qu'ils soient syriens d'ailleurs, de la même façon que Jésus est venu pour sauver tous les hommes, quelles que soient leurs origines, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Quelles que soient leurs origines. Amen, alléluia. Élisée voit loin. Élisée voit très loin. Jusqu'où voit-il ? Il est ainsi une image de celui qui voit toutes choses et qui connaît aussi toutes choses et qui veut aussi nous faire voir sa gloire. Alléluia. Et nous avons vraiment un immense besoin de Jésus. Nous avons besoin immense de discerner le Seigneur Jésus. Alléluia. Ah, ça c'est un grand point. Ceux qui ont l'occasion de lire les chroniques de Narnia, de Clive Staples-Lewis, donc, dans le volume 2, qui a pour titre Prince Caspian, donc, là c'est une grande et magnifique histoire pour enfants, remplie de profondes vérités divines pour les adultes, d'allégories significatives pour les chalonnais de 7 à 97 ans. Et quand je parle de 97 ans, je sais de quoi je parle, mamie Anne. Hein, presque bon anniversaire. Voilà. Donc là, vous avez les quatre enfants. Quatre enfants. Vous avez Lucie, la plus jeune. Vous avez Edmund. Vous avez Susan. Vous avez Peter, l'aîné. Ce sont les quatre. C'est une image. L'image des croyants qui sont en mission pour leur maître. Et ils sont engagés, comme nous, dans une périlleuse aventure. Voilà. Et ils se sont égarés dans une forêt profonde, au relief tourmenté, au relief dangereux. En particulier, un ravin. Un ravin infranchissable qui est là. Et le grand lion Aslan, qui est l'image de Christ, hein, donc Aslan s'est déjà révélé une première fois à Lucie, la plus jeune. Il s'est révélé la plus jeune, mais pas aux autres. Il s'est révélé la plus jeune pour dire qu'il leur faut prendre une voie qui monte dans la forêt. Voilà. Mais eux, ils ont plutôt l'impression que le chemin à suivre, c'est un chemin qui va dans l'autre sens parce que ça descend, c'est plus facile, au moins dans un premier temps, et puis il y a moins de fourrés, etc. Alors, malgré le fait qu'ils savent que Lucie est sincère et que dans le passé, elle a déjà eu des révélations d'Aslan qui ont été très utiles à tous, ils décident, eux, de partir dans le sens qui leur semble bon en obligeant Lucie, qui est très malheureuse, à les suivre. Donc, et ils sont quelque part aussi un petit peu vexés de ce que Aslan s'est révélé à elle et ne s'est pas révélé à eux. Voilà, donc il y a certainement de ça aussi. Et au début, ça a l'air d'aller, leur projet a l'air de fonctionner, jusqu'au moment où d'un seul coup, ils pensent qu'ils sont presque arrivés, et voilà une volée de flèches qui leur tombe dessus de la part de l'ennemi. Ils en réchappent d'extrême justesse dans une fuite précipitée et ils sont obligés de rebrousser chemin, bien sûr, dardard. Et puis, voilà, ils sont fatigués, épuisés, ils savent que faire. Et la nuit suivante, Aslan apparaît à nouveau à Lucie. Et puis, il l'invite à le suivre. Il dit, même si tu es toute seule, même s'ils ne veulent pas venir avec toi, tu vas me suivre s'ils ne veulent pas t'écouter. Alors quand même, elle va réveiller les autres pour leur rapporter donc cette conversation qu'elle a eue avec Aslan. Et au début, elle est accueillie avec un mélange d'incrédulité, pardon, de scepticisme, même de mauvaise humeur, de mauvaise volonté de la part de certains, en particulier Susan. Et puis, bon gré mal gré, ils se décident quand même à suivre Lucie, tout en traînant plus ou moins les pieds. Et Lucie est la seule qui voit Aslan, elle le voit devant, qui conduit, qui les guide pas à pas, et qui les emmène sur une ligne de crête qui est juste au-dessus du ravin. Et elle leur dit, après ils sont là, ils se plaignent, ils se demandent pourquoi eux aussi ne voient pas Aslan. Et puis c'est Edmund, malgré tout, qui prend de plus en plus position pour Lucie au fur et à mesure de la progression. Et puis à un moment, Aslan arrive entre quelques arbres qui sont là juste au bord de la falaise, et puis il disparaît comme s'il était tombé en bas du ravin, comme s'il était tombé de l'autre côté. Alors Lucie s'approche, les autres disent « Mais non, n'y va pas, tu vas tomber !» Mais la confiance, elle s'approche jusqu'au bord pour découvrir qu'il y a là un sentier qui descend en zigzag dans la pente raide, qui est invisible donc, sauf de très près, et qui malgré tout offre bonne sécurité. Et elle voit Aslan qui descend là, qui la regarde, et puis qui paraît l'inviter à le suivre. Et là, Edmund s'approche aussi, il dit « Mais oui, elle a raison, venez, il y a un sentier par là !» Donc, il s'approche aussi, et puis il reprend les autres. Il dit « Mais arrêtez de rouspéter, regardez, il y a un sentier pour descendre, on doit franchir, c'est peut-être le moyen. » Et puis, il s'engage dans la descente, donc suite à Lucie. Et à ce moment-là, que lui aussi, il voit l'ombre d'Aslan d'abord. Il commence à voir l'ombre d'Aslan, voyez-vous. Et puis, il dit « Oh, il y a l'ombre d'Aslan !» Il en parle aux autres, il en témoigne à ceux qui sont derrière, et ça l'encourage. Et puis, quand il arrive vers le fond du ravin, il voit Aslan à son tour. Il voit Aslan qui traverse le torrent sur des rochers qui sont là pour faire un passage. Et son témoignage est un encouragement pour Peter, donc, qui reprend gentiment Susan parce qu'elle a toutes sortes de jérémiades et d'objections quant à la difficulté du chemin, alors qu'ils sont en train de descendre à leur tour. Ce qui fait que bientôt, Peter lui aussi va pouvoir discerner de mieux en mieux Aslan qui les mène dans le sentier qui monte sur la falaise de l'autre côté du ravin. Voilà. Et au bout du compte, ils vont atteindre leur but du moment. Bon, ce n'est pas le but final de l'histoire. C'est loin d'être la fin de l'aventure. Mais avec une Susan qui finit quand même par être repentante et confesser ses torts, son mauvais état d'esprit, en particulier à Lucie, puis bien sûr aussi à Aslan. Mais vous savez, cette histoire, comme bien d'autres histoires d'ailleurs dans ce récit, dans ce grand récit des chroniques de Narnia, donc, dans cette histoire, dans cette affaire, heureusement qu'il y avait quelqu'un qui voyait. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui voyait, quelqu'un dont l'esprit n'était pas aveuglé par la propre volonté, par l'obstination, par les préjugés, par la confiance en soi excessive et par la suffisance. Quelqu'un qui cherchait la présence d'Aslan, hein, qui cherchait donc sa révélation, son opinion, sa volonté dans l'affaire, et sans que les autres s'en rendent compte, pendant longtemps, elle leur a rendu quand même un immense service, hein, alors qu'ils la mettaient en doute, alors qu'ils récriminaient contre elle. Par son attitude, elle a quand même fortement contribué à la sortir du pétrin. Hein, c'est ce qui ressort de l'affaire. Et dans l'Assemblée, c'est souvent comme ça aussi. Dans l'Assemblée, c'est souvent comme ça. Vous en avez quelques-uns qui voient, parce qu'ils ont les regards sur Jésus, parce qu'ils cherchent en premier sa communion, parce qu'ils veulent l'adorer en esprit et en vérité, et parce que pour eux, le plus important, c'est sa volonté. Et vous avez un certain nombre d'autres qui suivent, mais trop souvent avec un manque de conviction, avec plus ou moins de bonne volonté, parfois aussi des récriminations, des plaintes. Hein, et vous savez, tant qu'ils suivront ainsi, avec cette mentalité, le chemin ne sera pas agréable pour eux. Le chemin ne sera pas facile pour eux. Ça va être trop raide ici, ça va être trop périlleux là. Ils trouveront toujours quelque chose à redire et ils se rendront eux-mêmes malheureux. Lorsque l'Écriture nous dit « Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles parce que ce qui est né de Dieu triomphe du monde. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si quelqu'un trouve les commandements de Dieu pénibles, est-ce que ce sont les commandements de Dieu qui sont vraiment pénibles ? Ou bien est-ce que c'est la question qu'il faut se poser à propos de sa nouvelle naissance ? C'est ça le grand point, vous savez. Et ce passage, il est là. Hein. Et c'est vrai que, tandis que ceux qui voient Jésus, ceux qui marchent dans le chemin, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, ils auront aussi des fatigues. Hein. Ils auront aussi des épreuves. Hein. Ils auront aussi des difficultés dans le chemin. Mais quel renouvellement d'assurance. Quel renouvellement de motivation. Quel renouvellement de force pendant la marche. Et la joie du Seigneur sera leur force, alléluia. Ah, si ce matin, parmi nous, il y avait plusieurs qui se décidaient résolument à passer du stade de suiveur, plus ou moins convaincu, plus ou moins volontaire, à celui de marcheur résolu. Marcheur résolu dans la voie de Christ, marchant avec lui de tout cœur, au milieu, oui, de cette génération perverse et corrompue, c'est vrai, mais en ayant les yeux de nos cœurs directement sur Jésus. Quelle grande bénédiction pour eux en premier. Là aussi, oui, quelle décision excellente. la meilleure qu'ils aient jamais prise. Et quelle cascade de bons effets ça va produire aussi autour d'eux. Si tu crois, oui, tu verras véritablement la gloire de Dieu au-delà de tout ce que tu peux imaginer ou penser. Amen. Amen. Merci Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour l'œuvre que tu veux faire, Seigneur. Oh, quelle œuvre admirable tu veux accomplir. Combien tu veux nous manifester, nous montrer ta gloire, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Combien tu veux ouvrir nos yeux déjà sur ce qui est glorieux de ta part et dans lequel nous sommes présentement, Seigneur. Et combien, eh bien, en allant de l'avant, en marchant avec toi sur le chemin, eh bien, tu vas agir aussi glorieusement, Seigneur. Et tu ouvriras les yeux de nos cœurs pour que nous puissions encore le discerner et le voir. Merci, Sauveur d'amour et de puissance. Merci, Sauveur de bonté. Alléluia. Te rendons grâce, nous te glorifions encore de tout cœur. Amen, alléluia, amen, alléluia. L'heure étant venue, il se mit à table et les apôtres avec lui. Il leur dit, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. » Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, « Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous, car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Te remercions, Seigneur, de cette parole, de ce souvenir puissant que tu places encore devant nous, Seigneur, de ce grand sacrifice qui a été accompli en notre faveur, Jésus. Et merci de ces répercussions salutaires et extraordinairement bénéfiques qui s'accomplissent et se réalisent jusqu'à aujourd'hui. Merci notre Sauveur et notre Dieu. Et merci parce que tu nous gardes aussi maintenant encore avec les yeux fixés sur la croix, sur le sacrifice qui a été accompli là, sur la victoire qui a été remportée là. Tu gardes un esprit de foi, un esprit de reconnaissance, un esprit de victoire, un esprit d'adoration encore et que ces prières maintenant qui montent encore puissent également exprimer tout cela. Sois glorifié, mon Dieu. Amen. Alléluia. Il y a plusieurs annonces. Alors, ceux qui veulent continuer à distribuer les invitations dans les boîtes aux lettres à Châlons, vous pouvez encore vous inscrire. Donc, vous aurez votre plan de distribution et les invitations dès que ce sera possible. Je vous rappelle aussi donc, la réunion de prière mercredi soir à l'église. Ce n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. Et aussi la prédication en ligne du vendredi soir. Alors, je vais rappeler que tout le monde peut participer au culte dimanche prochain. Simplement, n'oubliez pas de vous inscrire, s'il vous plaît. Soit en ligne, soit par téléphone, pour qu'on puisse préparer ce qui doit l'être. Que soient remerciés tous ceux qui ont participé à cette période qui s'est déroulée cette semaine à Besançon, et donc ceux qui ont soutenu par leurs prières. Et nous envisageons aussi des baptêmes pour le mois de septembre. Donc, ce sera un mercredi soir. Ce sera un mercredi soir qu'on fera ça. Ce sont des personnes qui ont pris un engagement pour le Seigneur suite à la période de confinement. Comme quoi, vous voyez que ça n'a pas été négatif. Au contraire, pour des personnes, ça a été positif. Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse.